Je propose de lire quelques versets dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11 et au verset 25. Matthieu 11, 25. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus répondit et dit : Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Pensez à ce texte parce que Thibaut Baumann, dimanche dernier, a introduit le culte en évoquant ce repos que le Seigneur veut nous donner, non seulement dans nos temps de repos proprement dit, mais aussi dans toutes nos activités. Et je me suis dit que ça pourrait être aussi un texte qui peut nous parler en ce temps de rentrée. Et donc, le premier point que je souhaiterais souligner, c'est en ce temps-là, quand l'évangéliste, dans le cours de son récit, met de telles indications, c'est pour nous rendre sensibles au contexte. En ce temps-là, quel était ce temps? C'est le temps que le chapitre 11 nous décrit juste avant, puisque nous avons commencé notre lecture au verset 25. Et que se passe-t-il dans ce chapitre 11? Eh bien, ce n'est pas très facile pour Jésus. Celui qui aurait dû être son supporter numéro 1, Jean-Baptiste, qui était le précurseur, a été mis en prison et il a un sérieux coup de mou, le Jean-Baptiste. Et donc il envoie ses disciples à Jésus pour lui dire « Mais es-tu vraiment celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?» Et alors Jésus répond aux disciples que Jean-Baptiste avait envoyés vers lui en rappelant les faits glorieux, cette irruption du royaume de Dieu sur la terre, marquée par ses miracles et par-dessus tout par cette annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. L'évangile est annoncé aux pauvres. Et Jésus profite de cela pour mettre en exergue le rôle unique que Jean-Baptiste a eu dans l'histoire du salut, puisque c'est celui qui a eu le privilège insigne d'annoncer la venue de Jésus lui-même. Mais aussi le fait que désormais, dans ce royaume de Dieu qui était venu dans la personne du roi, eh bien, celui qui se situe après la croix, eh bien, dispose d'un contexte finalement plus grand encore que celui de Jean-Baptiste. Et puis, le deuxième point que Jésus évoque, c'est ce fait que bah, finalement, les gens ne sont jamais contents. Jean-Baptiste est venu plutôt dans la restriction, dans la rigueur, l'ascèse. Oh. Dit, il est un démon. Et puis Jésus lui est venu dans une autre optique, s'approchant de tout le monde, et puis partageant les repas, un verre avec n'importe qui, au point même qu'on le disait mangeur et buveur, ami des publicains et des pécheurs, et donc les gens n'étaient jamais contents. Mais cette sagesse qui se montrait à la fois chez Jean-Baptiste par sa conduite ascétique et à la fois en Jésus dans son ouverture à tous, eh bien cette sagesse a été justifiée par ceux qui reconnaissent que cette sagesse était là. Et alors Jésus est obligé de prononcer dans les versets 20 à 24, qui précèdent immédiatement le texte que j'ai lu, des malheurs. Alors là encore, nous l'avons déjà évoqué ici sans doute plusieurs fois, mais il ne faut pas se méprendre quand Jésus dit malheur à quelqu'un. Ce n'est pas une malédiction prononcée, c'est un constat de tristesse d'abord et avant tout. Qu'il est malheureux, celui-là, à cause de ce qu'il a fait. Et Chorazine, Bethsaïda, Capernaum, Jésus est obligé de dire malheur à ces villes. Pourquoi ? Parce que ces villes, qui avaient bénéficié avant tout de ces miracles que Jésus venait de rappeler aux disciples de Jean pour qu'ils les rapportent à Jean, eh bien ces villes-là ne s'étaient pas tournées vers le salut. Et il n'y avait pas eu cette repentance. Et alors Jésus dit, mais vous savez, au jugement dernier, il y aura des gradations et le sort de ces villes-là sera d'autant plus triste. Et alors, paradoxalement, c'est en ce temps-là, un temps d'opposition, puisque Jésus donc, un temps d'incompréhension, que Jésus fait cette louange, célèbre son Père. C'est mon premier point. En ce temps-là, Jésus répondit et dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Jésus montre par cette louange qu'il adresse à son Père et qu'il vocalise. Et ça, c'est assez rare dans les évangiles. Souvent dans les évangiles, nous voyons Jésus qui nous est dit sortir en prière longtemps avant le jour ou aller prier dans un lieu retiré, etc. Mais la teneur de sa prière ne nous est que rarement révélée. Hormis Jean 17, où nous avons en 26 versets une prière longue de Jésus, hormis cela, nous n'avons que quelques paroles très, très courtes. « Père, je sais que tu m'entends toujours. » voilà. Mais là, nous avons une des rares prières que les évangiles nous ont conservées de Jésus. Et Jésus loue son Père dans ces circonstances difficiles en ce temps-là. Et pourquoi ? Parce qu'il reconnaît que Dieu est souverain sur tout. Il reconnaît cette souveraineté, c'est pour cela qu'il appelle Seigneur du ciel et de la terre. Et nous avons chanté tout à l'heure dans ce symbole des apôtres que nous croyons en ce Dieu souverain, Dieu tout-puissant, créateur des ciels, créateur de la terre. Et donc, il a ce repos par rapport à cette pensée de la souveraineté de Dieu et que tout ce qui se passe, eh bien, c'est Dieu qui l'a permis dans sa bonté. Et alors, ça peut nous parler en ce temps-là. Quel est le temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ce matin ? C'est ce 1er septembre que nous avons rappelé, en ce temps-là où la rentrée se profile avec son contexte, peut-être un contexte... inquiétant pour l'un ou pour l'autre, peut-être parce qu'il y a une inquiétude concernant le travail ou la famille les études. Je ne sais plus qui c'est qui évoquait dans une prière tout à l'heure un changement de collège, au collège ou au lycée ou aux études supérieures ou que sais-je, un contexte différent. Eh bien, quel repos pour nous, je trouve, que d'avoir cette même pensée que Jésus avait. Non pas « Oh Père, pourquoi tu permets cela ? C'est quand même vraiment compliqué. » Mais non. Jésus nous est présenté là, ici, comme homme parfaitement obéissant à son Père, puisque on le voit, il le reconnaît comme Seigneur du ciel et de la terre, que ce qui peut nous sembler mystérieux, ce qui peut nous sembler parfois pas bien collé, eh bien finalement, c'est ce que Dieu, dans sa souveraineté, sa souveraineté alliée à sa bonté. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, que la souveraineté de Dieu s'allie toujours avec sa bonté. Et donc Dieu, dans sa souveraineté, a trouvé ça bon devant lui. C'est sûr que Jésus aurait aimé que les gens de Capernaum, de Chorazine et de Bethsaïda, qui venaient en foule devant lui pour être guéris, mais dont le cœur n'avait pas été vraiment touché, que ces gens-là acceptent cette bonne nouvelle qui était annoncée aux pauvres. Et au moins, dans la masse, ils ne l'ont pas fait. Nous savons qu'il y en a quelques-uns qui l'ont accepté, puisque Pierre était de Bethsaïda, il habitait à Capernaum, donc il y en a bien quelques-uns qui ont eu le cœur touché, mais la masse ne l'avait pas été. Et pourtant, le Seigneur Jésus loue son Père de cela. Et donc, si nous voulons trouver le repos dans nos vies, au quotidien, eh bien, nous pouvons nous cramponner à cette idée que Dieu est souverain. Et sa souveraineté s'allie à sa bonté. Et alors, de façon parfois mystérieuse, il y a cette utilisation, entre guillemets, du mal que Dieu fait rentrer dans son plan sur lequel il est souverain sans qu'il l'endosse en quoi que ce soit et qui rentre là-dedans. Mais cette cela n'empêche pas que le plan de Dieu, c'est ce qu'il trouve bon devant lui. Et alors, ce que Jésus nous invite indirectement par cette prière qu'il fait à son Père, c'est aussi de nous mettre dans cette position de ceux qui sont ses petits-enfants. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits-enfants. Alors, ce n'est pas un plaidoyer pour être neuneux, hein, qu'on ne se trompe pas du tout. C'est juste que les intelligents, c'est ceux qui sont instruits. Vous savez, c'est comme plus tard, dans le livre des Actes, les chefs des Juifs diront, mais de toute façon, ceux-là, ils sont illettrés parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans les bons niveaux. Donc, ce que Jésus dit, c'est, en fait, à son Père, c'est que pour vraiment comprendre Dieu, pour vraiment le comprendre lui, pour entrer dans ce repos qu'il nous propose, eh bien, il nous faut adopter cette attitude qu'il évoquait déjà quand il a ouvert la bouche pour la première fois dans cet évangile, dans le sermon sur la montagne, comme on dit, et qu'il disait, ayant ouvert la bouche, il les enseignait, disant « Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume de Dieu. » C'est ce que Jésus veut que nous ayons comme attitude, comme celle des petits-enfants. Et l'attitude des petits-enfants, ce n'est pas l'humilité. L'attitude des petits-enfants, c'est la crédulité. Pourquoi ? Parce qu'un petit enfant, on lui dit quelque chose, il le croit. C'est la maîtresse qui l'a dit, je le crois, je ne le remets pas en question. Et donc, ce à quoi nous sommes appelés, c'est à croire ce que Dieu nous dit. Et c'est cela qui nous permet de rentrer dans ce plan que Jésus va développer dans ces versets qui suivent. Qu'est-ce que Dieu a caché aux sages et à ceux qui s'estiment être instruits ? C'est ce que lui révèle. Et la question, c'est est-ce que je mets mon intelligence et ma pensée au-dessus de ce que Dieu me révèle de lui, et donc je vais juger de moi-même ce que Dieu me révèle, ou au contraire, est-ce que je soumets ma pensée et mon intelligence à ce que Dieu m'a révélé ? Et c'est cela qui différencie l'attitude des sages et des instruits, on pourrait dire des scribes et des pharisiens dans le contexte global, mais on peut actualiser les choses très facilement, et ce qui distingue de l'attitude des petits-enfants. Et combien de fois dans cet évangile selon Matthieu, nous sommes invités à prendre cette place des petits-enfants. On voit que Dieu, que Jésus aime les prendre en exemple. Parce que justement, ils acceptent cette révélation de Dieu. Et alors, dans une époque où il y a beaucoup d'idées qui se développent, où c'est « moi je pense que », eh bien, l'attitude du petit enfant à laquelle nous invite Jésus ici, c'est l'attitude de celui qui dit « oui Père, tu me dis cela, je le crois, je crois en Dieu ». Je crois en ce qu'il m'a révélé et je sais que c'est bon pour moi. Alors ensuite, donc le premier point, c'est cette louange de Jésus. Le deuxième point, nous le trouvons au verset 27, c'est la révélation que donne Jésus. Et alors, c'est un verset qui peut apparaître un peu surprenant. C'est un verset très intéressant, moi, je trouve, parce qu'il nous montre la cohérence des évangiles. Peut-être que si... Je ne sais pas ce texte aussi bien que nous pouvons le connaître parce que c'est quand même un texte qui est souvent lu parmi nous. Et qu'on vous le dise, vous diriez « Ah ben ça, c'est dans l'évangile selon Jean. Ça sonne joannique, n'est-ce pas, ce verset ? Vous ne trouvez pas « Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils voudra le révéler. » Ça nous fait penser, bien entendu, à des textes comme Jean, chapitre 1, verset 18 « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils. » Unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Voilà. Et donc ça nous montre que Matthieu, qui écrit sans doute, on peut penser, une grosse vingtaine d'années avant Jean, eh bien, avait tout à fait la même perception de cette unicité de la révélation de Dieu dans le Fils que ce que Jean va exposer plus tard, plus en détail, dans son évangile. Et donc vous voyez combien c'est intéressant aussi de voir que la présentation que Jésus donne, qui nous est donnée plutôt de Jésus dans les quatre évangiles, cette présentation, elle est cohérente. Parfois, on dit, et à juste titre, hein, que l'évangile selon Matthieu, c'est l'évangile du roi, que l'évangile selon Marc, c'est l'évangile du serviteur, Luc, le fils de l'homme, et Jean, le fils de Dieu. Mais les quatre évangiles présentent les facettes. Et on pourrait faire une matrice avec ces quatre aspects, et puis les quatre évangiles, et remplir les 16 cases. Il n'y a pas de problème. Et donc, nous avons ce texte dans l'évangile selon Matthieu qui nous montre un petit peu cet extraordinaire de cette union entre le Père et le Fils qui entre-ouvre le voile. Et là, je dirais que c'est presque un TP de ce que nous trouvons au verset 25. Parce qu'il a fallu des siècles de discussions, de disputations entre des gens très instruits et très sages et très intelligents pour finalement arriver à concevoir cette triunité qui est la révélation que Dieu donne de lui-même dans la Bible de ce seul Dieu en trois personnes et aussi de l'incompréhensibilité, si je puis dire les choses comme ça, de qui est Jésus. Et vous aurez remarqué l'asymétrie entre les deux expressions. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Pouf, on s'arrête. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils voudra le révéler. L'action spécifique de Jésus sur cette terre, c'était de révéler le Père. Il révéla, grâce infinie, le cœur de Dieu, l'accès au ciel. Donc ce que Jésus était venu faire sur cette terre, c'était révéler le Père et accomplir l'œuvre de la croix. C'est pour cela que juste avant d'aller à la croix, quand Philippe lui pose la question « Montre-nous le Père », Jésus lui répond « Mais attends, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu ? Parce que celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc si nous nous interrogeons, si quelqu'un nous interroge « C'est qui ton Dieu ?» Ben, il faut montrer Jésus. Il faut montrer les actes de Jésus, les paroles de Jésus, le sacrifice de Jésus. Tout cela révèle qui est Dieu. Et donc, celui à qui le Fils voudra le révéler, on voit bien qu'il y a cette illumination sous-jacente à cette expression, cette illumination que le Fils doit nous donner pour comprendre qui est vraiment Dieu au travers de ce qu'il nous a révélé de lui-même. En revanche, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et vous savez, il y a un certain nombre de mystères dans lesquels nous n'arriverons jamais à rentrer totalement. Et qu'il nous faut garder en tension féconde sans vouloir arriver finalement à la solution. Alors, on mentionne parfois la souveraineté du Dieu et la responsabilité de l'homme. D'ailleurs, ce texte en dit quelque chose, je ferai peut-être allusion tout à l'heure. Mais il y a, entre autres, la nature de Jésus. Vrai Dieu, vrai homme, une seule personne, de nature, sans confusion ni distinction, mais néanmoins, vous voyez, il y a des choses qui sont difficiles à dissocier là-dessus. Et on s'est penché pendant des siècles et des siècles sur ce mystère sans pouvoir le résoudre complètement. Donc seul Dieu perçoit complètement qui est ce Jésus, à la fois homme participant au sang et à la chair exactement comme nous, mais en même temps celui qui pouvait dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Et donc devant ce mystère-là, nous nous arrêtons. Et c'est un verset parmi d'autres qui nous invite à ne pas creuser trop loin, parce que si on veut creuser trop loin, eh bien on se heurte à des incompatibilités qui dépassent notre esprit. Mais néanmoins, si Jésus est venu sur la terre, dans cette personne, j'allais dire hybride, mais ce serait très mal dit, cette personne unique qui est à la fois 100% divine et 100% humaine, eh bien, c'est pour nous révéler le Père. Et vous aurez remarqué dans ce court texte qu'il est 5 fois question du Père. « Je te loue, ô Père, oui Père, toutes choses ont été livrées par mon Père, si ce n'est le Père, connais le Père, etc. » Et donc, ce que Jésus est venu nous révéler, c'est Dieu comme Père. Alors ça, c'est un autre sujet que je ne touche pas ce matin. Qu'est-ce que nous pouvons mettre derrière cela? Qu'est-ce que nous pouvons mettre les uns et les autres? Et avec toute la difficulté que l'on a parfois de mettre derrière cette notion de Père, une analogie avec des pères terrestres qui sont ô combien défaillants dans leur représentation de ce que peut être Dieu comme Père. Et c'est pour cela que nous avons besoin de revenir à l'Écriture non seulement à l'analogie très 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 imparfaite que les pères humains peuvent donner à leurs enfants, moi le premier, mais aussi, mais d'abord et avant tout, à ce que l'Écriture nous dit de cette relation avec laquelle, dans laquelle Jésus nous a introduits d'enfants avec leur père. Donc ce verset 27 touche des sujets, comme vous le voyez, extrêmement profonds. Et Jésus enchaîne avec ce verset 28, « Venez à moi », l'appel de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. » S'il est des versets dans les évangiles qui touchent notre cœur et dont nous avons besoin, bien souvent, celui-ci en fait partie, n'est-ce pas ? C'est le troisième point, l'appel de Jésus. Et Jésus fait cet appel de venir à lui. Il ne dit pas de venir au Père. Il ne dit pas de venir à Dieu, il dit de venir à lui. Ah. Là aussi, nous avons besoin de l'éclairage subséquent que nous donnera Jean pour dire « Nul ne vient au Père que par moi ». Autrement dit, si nous voulons savoir comment aller à Dieu, si nous voulons avoir cet accès à Dieu, à la divinité, comme on dirait aujourd'hui, ou à la spiritualité, pour prendre un terme encore plus vague, eh bien, l'Écriture nous donne cette exclusivité. Il n'y a pas d'autre chemin que de passer par Jésus. Et c'est pour cela que Jésus se présente avec cette singularité. Venez à moi. Il a cette prétention, si j'ose dire, de dire, eh bien, le seul moyen pour trouver vraiment le repos que Dieu veut donner, eh bien, c'est de venir à moi. Et alors, ce qui est aussi très intéressant à noter, c'est que Jésus appelle à venir à lui. Donc, il y a cette démarche, c'est un appel que fait Jésus, une invitation. Il ne dit pas, ben ça y est, je vous oblige à venir à moi. Non, non. C'est une invitation. Venez à moi. Et de la même manière qu'avant, il y avait cette révélation extraordinaire, à la fois objective et subjective, du Père par le Fils, qui nous parle donc de cette souveraineté par laquelle Dieu peut éclairer l'esprit de quelqu'un pour lui faire réaliser que oui, c'est par Jésus-Christ que nous pouvons accéder à Dieu par le sacrifice unique qu'il a accompli à la croix, cet aspect de souveraineté. Il y a aussi cette responsabilité de l'homme, d'où l'appel « Venez à moi ». Et donc cette démarche. Et alors à qui s'adresse-t-il ? Il s'adresse à ceux qui sont fatigués et chargés. On dirait, c'est quand même bizarre de dire ça un 1er septembre où on devrait être reposé et tranquille. Mais quand même. D'abord, je ne suis pas certain que les jours de vacances soient toujours des jours où on soit totalement déchargé et pas fatigué. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais cette fatigue qui est plutôt une fatigue intérieure, donc tout ce qui peut nous charger intérieurement, et puis tout le contexte aussi, ce qui peut nous charger extérieurement, eh bien, tout cela, c'est la condition humaine, quelque part. Et imaginez qu'un jour, on puisse arriver un 1er septembre parce qu'on a eu un été totalement tranquille et qu'on entame une année scolaire totalement tranquille, c'est une illusion. Nous ne serons plus fatigués et plus chargés définitivement que quand nous serons dans la présence immédiate de Dieu, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, quelque part, cet appel s'adresse à chacun. Après, c'est vrai que je ne méconnais pas que les degrés de charge et les degrés de fatigue peuvent être très divers. Déjà, nous le voyons pour nous-mêmes dans le temps, et puis même si nous plaçons à un moment donné, eh bien, nous savons qu'il y en a qui traversent des circonstances bien plus difficiles que d'autres. Et donc, quand Jésus fait cet appel, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés », bien, vous voyez, il fait un appel à ceux qui, à la fois, se fatiguent eux-mêmes et puis sont chargés. Vous voyez, il y a à la fois ce que nous mettons dans notre fardeau et ce qui aussi est le contexte qui nous le met, parce qu'il y a les deux aspects. Alors, bien entendu, ce texte-là a souvent été utilisé pour l'évangélisation, et sans doute, il y a des milliers, peut-être des millions de personnes qui, en entendant ce texte-là, sont venues à Jésus pour se décharger de leur fardeau. John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du Pèlerin, qui a des images assez intéressantes, il montre ce gars-là avec un sac plein de pierres et puis qui laisse finalement ce sac à la croix. Effectivement, on est chargé de nos péchés. Et ça, j'espère que chacun dans cette salle, un jour, a déposé son gros sac. Peut-être aussi certains se rappellent ce chant de Grandjean, « Je porte un très lourd fardeau, un fardeau. » Donc il y a ce fardeau-là que nous avons déposé. Et alors ce fardeau-là, nous savons que nous n'avons pas à le reprendre, puisqu'il nous a pardonné toutes nos fautes. Et que le repos que nous avons, ce repos de la conscience que Jésus nous a donné, quand il nous dit « Je vous laisse la paix », eh bien cette paix par rapport à la conscience, eh bien c'est le fait que désormais nous ne pouvons plus être chargés de nos péchés devant Dieu. C'est fini, parce que le Fils nous est venu et il nous a donné ce repos. Et nous avons ces affirmations très nombreuses de l'Écriture qui nous dit eh bien, que tous nos péchés sont pardonnés, que nous sommes de saints et irréprochables devant Dieu en amour, etc. etc. Et ça, c'est le plan de Dieu. Et ça, c'est parce que ça fait partie des choses révélées. Donc vous voyez le lien, pourquoi Jésus commence par ce verset 25 en parlant de cette révélation aux petits-enfants, et puis la suite. C'est parce que nous avons cette révélation dans la Bible, que nous avons à accepter par la foi, comme nous l'avons dit au début de ces moments, que, effectivement, le sang de Jésus-Christ, tu as rappelé Pierre-Yves tout à l'heure, eh bien, c'est celui qui lave tous nos péchés. Et donc, nous avons le repos par rapport à ça. Donc ça, c'est une première catégorie. Peut-être est-ce de l'acquis, je l'espère en tout cas, de la part de chacun ici, et qu'il n'y a pas qui se disent encore, qui sont inquiets, qui sont chargés, qui sont fatigués, parce qu'ils se disent, peut-être qu'un jour, il y a un péché qui va me rattraper. Non. Après, la deuxième catégorie, eh bien, c'est la pression du quotidien, si je puis dire. Et cette pression du quotidien, eh bien, Jésus veut nous donner le repos par rapport à cela. Et alors, il y a cette image du joug. C'est le quatrième point. Cette image du joug qu'il donne. Et alors, c'est ce que Thibaut évoquait la semaine dernière. C'est que le joug, vous savez, c'est cette pièce de bois qui lie deux bêtes qui avancent ensemble. Et donc, c'est comme si Jésus venait à côté de nous parce que on avance difficilement. Et puis, il se met à côté de nous et il avance avec nous et il porte avec nous. Et il y a cette pensée qui, je trouve, est très encourageante au quotidien, qui est de dire eh bien, que Jésus porte nos fardeaux avec nous. Il ne va pas forcément les enlever, mais il va se mettre à côté. Et alors, nous avons tous ces textes dans la parole, en particulier dans l'Épître aux Hébreux, qui nous développent le fait qu'il peut le faire parce qu'il a été justement pleinement humain. Parce qu'il y a eu cette personne mystérieuse qui, de Dieu, est devenue homme et a participé à la condition humaine. De là vient de ce qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il a eu part au sang et à la chair, et qui peut être ce miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur pour tous ceux qui s'approchent de lui. Et donc le repos que nous trouvons, qui nous invite à trouver auprès de lui, c'est de savoir que lui porte le joug avec nous. Mais, et c'est le troisième aspect du joug, par rapport donc à nos péchés, le fait que nous trouvons le repos de la conscience vis-à-vis de Dieu, le fait par rapport au quotidien que nous trouver une mesure de repos par le fait de savoir que Jésus est avec nous, présent dans nos circonstances, capable de compatir à ce que nous vivons. Mais il y a un troisième point qui est peut-être plus directement celui qui est en vue dans ce texte, puisque Jésus dit « Prenez mon joug sur vous ». Et alors, pour des oreilles juives du 1er siècle, le contexte était très clair. Parce que les scribes et les pharisiens, ces sages et ces intelligents, comparaient souvent la loi à un joug. Et d'ailleurs, Jésus reprend cela. Lisons Matthieu 23, verset 4, voilà. Il lit des pesants fardeaux difficiles à porter et les mettre sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne veulent pas les remuer du petit doigt. Et puis, je crois que c'est Pierre qui dit la même chose en acte 15, quand il y a tout ce débat, est-ce qu'il faut que les chrétiens respectent la loi ou pas ? Voilà, acte 15, verset 10, et maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus de la même manière qu'eux. Et donc, le fils de la loi, hein, vous savez, il y avait cette bar mitzvah quand le jeune juif, pour la première fois, avait le droit de lire dans la synagogue la loi. Eh bien, on disait, il était fils de la loi et on lui disait, maintenant, tu es sous le joug de la loi. Et ce joug de la loi, il est terrible. Parce que on ne peut pas plaire à Dieu si on est sous ce joug-là. C'est impossible. Et donc, ce que Jésus dit, vous voyez, bien, ce qui va vous permettre aussi de trouver du repos par rapport à un troisième aspect qui est comment plaire à Dieu dans ma vie, parce que peut-être quand ce début d'année scolaire, vous avez de bonnes résolutions, c'est possible ça, hein, c'est aussi un bon moment parfois pour se donner de bonnes résolutions. Je vais essayer de plaire au Seigneur dans cette année scolaire. Eh bien, comment le faire ? Si c'est en se mettant le joug de la loi, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, eh bien, quelque part, on sera sous un joug que ni nous, ni nos pères n'avons pu porter. Tandis que si on se met sous le joug du Seigneur, dont il parle au verset 30 en disant « Mon joug est aisé et mon fardeau léger », eh bien, c'est quoi ? C'est un cheminement commun. C'est différent. C'est pas « il faut que je lise ma Bible tous les matins parce que sinon le bon Dieu va me punir », c'est « je suis heureux de cheminer avec celui qui me dit que mon joug est aisé et mon fardeau léger ». Et alors, et c'est mon dernier point, que dit Jésus de lui-même pour justement trouver ce repos ? Vous avez vu, hein, vous avez... Verset 28, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés, moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et laissez-vous instruire par moi, ou apprenez de moi, car je suis débonnaire ou doux et humble de cœur. » C'est un texte extraordinaire, parce que Jésus ne se décrit jamais dans les évangiles. Il s'appelle le Fils de l'homme, etc., mais il ne donne pas ses qualités à lui. C'est le seul texte de tous les évangiles où Jésus se décrit, dit un peu ce qu'il est. Et quelle image donne-t-il de lui ? Il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un extrait. Oui, c'est ça. D'un texte de C.S. Lewis qui dit « Le Christ dit qu'il est doux et humble de cœur, et nous le croyons. En vertu de quoi, s'il n'était qu'un homme, l'humilité et la mansuétude sont les derniers caractères que nous attribuerions à certaines de ses paroles. » C'est vrai que Jésus a eu des paroles d'une prétention telle que ses contemporains voulaient le lapider, étaient scandalisés dedans, etc. Et pourtant, il dit « Je suis doux et humble. Je voudrais empêcher, je continue la citation de Lewis, « Je voudrais empêcher quiconque de prononcer cette phrase vraiment insensée que l'on avance souvent au sujet de Jésus. » Je suis prêt à voir en Jésus un éminent maître de morale, mais je récuse sa prétention d'être Dieu. C'est une chose à ne pas dire. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Il serait soit un fou, tel l'individu affirmant qu'il est un œuf poché, soit le démon des enfers. Il vous faut choisir. Ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien de plus qu'un aliéné, ou pire encore. Vous pouvez l'enfermer comme fou, lui cracher au visage et le tuer comme un démon, ou au contraire vous jeter à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu, mais ne vous laissez pas entraîner à favoriser ce non-sens, à savoir qu'il est un grand maître issu de l'humanité. Il ne nous a pas laissé cette possibilité, il n'a pas eu cette intention. » Et donc Jésus, quand il prononce cette phrase extraordinaire, « Moi, je suis apprenez de moi pour prendre mon joug sur vous et nous laisser instruire par lui, parce qu'il est doux et humble de cœur. Si Jésus voulait que nous retenions quelque chose de ce qu'il est, il nous dirait ça. Il nous le dit, je suis doux et humble de cœur. Et donc, quelle image avons-nous de Jésus ? Quelle image avons-nous de Dieu ? Puisque Jésus est venu pour nous révéler le Père. Le verset 27 nous l'a affirmé tout à l'heure. Quelle image en avons-nous ? Avec qui voulons-nous cheminer ? Qui c'est qui pourra nous donner du repos au quotidien ? Eh bien, celui qui se décrit lui-même comme doux et humble de cœur. Certes, il est le roi, mais le même mot débonnaire se retrouve dans le même évangile au chapitre, c'est au chapitre 21. Oui, c'est ça. Au chapitre 21, verset 5, le dimanche des rameaux, quand Jésus vient vers Jérusalem sur un petit ânon, et au verset 5 du chapitre 21. 4. Tout cela arriva afin que fût accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. » Le roi vient ? Mais comment est-il ce roi ? Il est doux et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il n'est pas venu sur un cheval. C'est Napoléon qui est représenté sur un cheval. Ce n'est pas Jésus. Jésus, il est sur un petit âne. Et on l'apprend à nos enfants. Un petit âne. Attaché. Et si nos enfants peuvent retenir cette idée de Jésus, de celui qui, étant Dieu, s'est fait homme dans le mystère de sa personne pour nous apprendre qui est Dieu, non pas un Dieu qui exige, non pas un Dieu qu'on pourrait essayer de satisfaire en étant bien propre dans notre vie, mais quelqu'un qui nous dit « Je suis doux et humble de cœur » et apprendre de lui. C'est cela que je souhaite, en tout cas pour ma part, pouvoir apprendre toujours plus pendant cette année scolaire, à me laisser apprendre, me laisser instruire par Jésus pour connaître celui qui est doux et humble de cœur et aussi le montrer ensuite. Et alors, ça donne le repos des âmes. Ça donne une tranquillité intérieure, comme on dirait aujourd'hui. Pas forcément des circonstances changées. Pas forcément le fait qu'il n'y ait plus aucun fardeau, mais on sait avec qui on est. On sait qu'on chemine avec celui qui nous dit « Mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Je ne suis pas venu pour imposer des choses, dit Jésus en substance dans les évangiles. Je suis venu pour apporter la vie à des brebis pour qu'elles l'aient en abondance. Et je vous laisse avec cette pensée donc de celui qui était personnellement dans des situations, une circonstance difficile, nous l'avons vu au travers de ce contexte du chapitre 11. Celui qui arrive dans ces circonstances à avoir cette parole de louange et de soumission à la souveraineté de Dieu et ce repos pour lui-même dans la souveraineté de Dieu, dans ce que Dieu avait trouvé bon devant lui pour Jésus lui-même. Celui qui nous révèle ce Père, ce Dieu sous la forme du Père, qui veut avoir des enfants autour de lui, dans cette relation directe, celui qui nous dit « Venez à moi et je vous donnerai ce repos », à la fois ce repos par rapport à nos péchés, ce repos par rapport à nos circonstances que Jésus partage, et ce repos par rapport à ce joug qu'il veut que nous prenions sur nous. Verset 29, c'est aussi un impératif, hein. « Prenez mon joug sur vous ». Jésus ne nous impose pas sa communion, mais il nous y appelle avec tendresse pour que finalement nous trouvions auprès de lui le repos, auprès de celui qui est doux et humble de cœur.